Vous êtes sur Europe 1, il est midi.
C'est un dispositif novateur qui a déjà été testé en exercice de situation exceptionnelle. C'est la première fois qu'il est mis en place de façon réelle.
L'opération Résilience en marche, le premier TGV médicalisé est parti Pierre de Strasbourg ce matin avec à son bord 20 patients contaminés, direction les CHU des Pays de la Loire.
Et quelle situation à venir? 40 000 nouveaux cas diagnostiqués la semaine dernière par les médecins de ville. En Ile-de-France, on arrive quasi à saturation dans les services de réanimation. Agnès Ricaribon, responsable du SAMU du Val-d'Oise, présidente des SAMU de France, sera avec nous dans un instant. Et puis, il y a une situation qui est très très grave aussi, c'est celle de Mayotte.
À Mayotte, on manque de tout. Avec mon bébé, j'ai du mal à avoir de l'eau facilement. Même si on voudrait se prémunir, on n'a pas les moyens de le faire.
Et nous inviterons à ce sujet le député LR de Mayotte, Mansour Kamardine.
Devant cette crise, les trafics de masques s'amplifient. Des individus peu scrupuleux vendent des masques sous le manteau alors que la pénurie s'accroît dans les hôpitaux. Illustration dans les Alpes-Maritimes. Et nous serons avec Maddy Scherer, porte-parole de la Gendarmerie nationale.
Dans ce journal également, l'inquiétude toujours des Français bloqués à l'étranger.
En ce moment, on a des jeunes Français qui dorment dehors en Australie, qui n'ont pas de logement, qui n'ont plus de ressources. Nos consulats ont besoin d'argent frais pour pouvoir leur offrir de quoi manger.
Et celle que vous écoutez, c'est la députée Anne Genetet que nous entendrons dans ce journal. Également à suivre le coup de frein sur l'activité. La France tourne environ à 2/3 de son économie. L'Europe qui se réunit en urgence face à une menace de récession totale. Et puis le boom du matériel sportif à domicile. Jamais vélos d'appartement et autres tapis de sol ne se sont aussi bien vendus. La météo, Anissa Dadi. Bonjour Anissa.
Bonjour Pierre, bonjour à tous.
Avec de la neige et du verglas en Corse, tiens.
Oui, effectivement, Pierre. D'ailleurs, le département de la Haute-Corse a été placé en vigilance orange neige-verglas. Encore jusqu'à demain matin, le temps reste très agité sur le sud-ouest, les Cévennes, l'Aveyron, la Lozère, le Var, les Bouches-du-Rhône, le Massif central et les Alpes. Je vous donne tous les détails à la fin du journal.
Merci Anissa. À tout à l'heure. Rendez-vous juste avant 13h. Météo complète sur Europe 1.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
C'est donc, Pierre, l'une des illustrations de l'opération Résilience lancée hier soir à Mulhouse par le président de la République. Un premier TGV parti de Strasbourg avec à son bord des malades du coronavirus.
Oui, et ce TGV médicalisé est parti vers 11h ce matin avec 20 patients contaminés. Direction les CHU de Nantes, de Angers, Le Mans, La Roche-sur-Yon. À quoi ressemble ce train, Charles Guyard ?
Eh bien, c'est un TGV comme tout voyageur a sans doute déjà emprunté. Aucun élément n'a été démonté à l'intérieur, il a simplement été aménagé avec du matériel médical de première urgence. Il est affrété par le ministère de la Santé et c'est le SAMU de Paris qui coordonne les opérations. Ce train comporte 2 rames de 5 voitures chacune. Dans la première, 7 agents SNCF ont pris place, tous sur la base du volontariat. Et dans la seconde, c'est toute la partie médicale. Il y a d'abord 20 patients, 4 par voiture, suivis chacun par un anesthésiste réanimateur, un interne et 4 infirmiers. Il s'agit de voitures à étage permettant de circuler d'un patient à l'autre sans se croiser, les malades étant installés dans la partie basse. Comment vont-ils ensuite être pris en charge une fois arrivés à destination et où vont-ils être hospitalisés? François Templier, chef de service au SAMU 49 à Angers.
Il y a un nombre d'ambulances médicalisées avec des équipes du SMUR et du SAMU qui sont donc à disposition pour prendre à ce moment-là, chacune d'entre elles, un des patients vers le CHU d'Angers pour 6 d'entre eux et vers le CH du Mans pour 4 d'entre eux. Le reste des patients donc iront jusqu'à Nantes pour être ensuite orientés vers d'autres établissements de santé des Pays de la Loire.
Et à noter que si le train comporte 2 rames, c'est pour permettre d'être désolidarisés l'une de l'autre en cas de problème. Les malades pourront alors faire marche arrière et retourner dans l'Est si cela le nécessite. Enfin, sur le trajet, le TGV va contourner Paris et passer par Massy-Palaiseau.
Merci Charles Guyard. Hier, pas moins de 24 millions de Français ont suivi l'allocution d'Emmanuel Macron. En clair, l'opération Résilience, c'est quoi le détail avec Didier François?
L'idée de l'opération Résilience, c'est de coordonner l'ensemble des moyens militaires engagés dans la lutte contre le coronavirus. Donc tout ce qui existe déjà, le déploiement du centre de réanimation de Mulhouse, les transports aériens médicalisés pour les malades en détresse ou l'évacuation des patients de Corse vers le continent à bord du porte-hélicoptère Tonnerre. Tout ça va se poursuivre évidemment, mais ça va être renforcé par de nouvelles initiatives dont la plus emblématique est certainement l'envoi de 2 autres bâtiments porte-hélicoptères vers les territoires d'outre-mer, puisque le Mistral qui était en manœuvre dans l'océan l'océan Indien va rallier l'île de la Réunion et Mayotte et que le Dixmude quitte la Méditerranée orientale pour rejoindre les Antilles avec la possibilité d'agir en Guyane, ce qui va grandement renforcer les capacités médicales sur place, car à bord de ces bâtiments de guerre, il y a des plateformes hospitalières très performantes, deux blocs opératoires, une salle de radiologie, un scanner et 69 lits, dont 50 équipés pour des soins intensifs. Donc pour vous donner une idée, ce sont les capacités comparables à celles d'un hôpital d'une ville de 25 000 habitants.
Précision signée Didier François. Voilà donc pour cette opération de grande envergure. Et ce, alors que le bilan des victimes du coronavirus, Pierre, s'aggrave de manière très inquiétante.
Oui, hier, le professeur Salomon dénombrait dans la soirée plus de 1330 morts en hôpital dès le début de l'épidémie. 3000 personnes en réanimation, des chiffres exponentiels. C'était sans compter ce nouveau chiffre qui vient de nous arriver ce matin, Ève Roger. Santé publique France estime à au moins 40 000 les nouveaux cas de Covid-19 diagnostiqués par les médecins généralistes la semaine dernière.
Oui, 40 000 cas en une semaine, ça peut paraître étonnant dans la mesure où officiellement hier soir, il y avait 25 000 cas recensés en France en tout et pour tout, mais c'est assez simple à expliquer. On sait que depuis le début, tous les cas ne sont pas recensés parce qu'il n'y a pas un dépistage automatique. Et puis, un nouveau dispositif de surveillance a été mis en place par Santé publique France depuis la mi-mars avec plusieurs sources différentes. D'abord les médecins généralistes réunis dans ce réseau Sentinelle qui sortent ce chiffre donc de 40 000 cas en une semaine, mais aussi les consultations SOS médecins ou encore les passages aux urgences. Et ces nouvelles sources permettent d'en savoir plus sur l'impact du virus qui circule maintenant partout en France, il n'y a plus de doute. Aujourd'hui sont particulièrement touchées les régions Grand Est, Île-de-France et les Hauts-de-France qui concentrent à elles seules 70% des décès depuis le début de l'épidémie. En réanimation, l'âge moyen des patients est de 65 ans. Et les deux tiers d'entre eux ont un facteur de risque de complications, avec en tête d'abord le diabète, suivi par des pathologies cardiaques. Enfin, ce sont bien les personnes âgées qui restent le plus durement touchées par le Covid-19. 78% des morts ont 75 ans et plus.
Merci Ève Roger.
Bonjour Agnès Ricard.
Bonjour.
Merci d'être en direct avec nous sur Europe 1. Vous êtes la présidente de la Société française de médecine d'urgence, responsable du SAMU du Val-d'Oise, présidente des SAMU de France. On vient de parler de ces chiffres, plus de 40 000 diagnostiqués par les médecins de ville, chiffre assez alarmant, alors que la vague est là, ça y est, en Île-de-France.
Alors effectivement, il y a un certain nombre de patients qui sont ce qu'on appelle post-symptomatiques, qui n'avaient pas de signe de gravité, pour lequel le dépistage systématique n'est pas fait. C'est que la surveillance syndromique, c'est-à-dire sur les signes cliniques, c'est qu'on a plus de cas potentiels que l'on considère comme étant des cas d'infection à coronavirus. Alors on voit en Île-de-France l'augmentation du nombre de cas graves. Plus vous avez une population touchée, plus comme le pourcentage de cas graves est de 15 à 20%, bah forcément le nombre absolu de nombre de patients qui nécessitent des soins en réanimation augmente, d'où l'importance qui est en train de se faire là de l'augmentation du nombre de lits de réanimation en Île-de-France. France, en essayant donc de doubler la capacité en lit de réanimation par rapport à ce qui existe habituellement pour pouvoir faire face à cette demande.
Ben oui, mais comment on fait pour doubler ? On va aller chercher ces lits de réanimation ?
On a eu un avantage par rapport à la région Grand Est, c'est qu'on a pu s'y préparer puisqu'on a appris beaucoup de ce qui s'est passé dans le Grand Est. On a transformé les lits de ce qu'on appelle les soins critiques, qui étaient de la post-réanimation, en lits de réanimation. On a transformé les salles de surveillance post-interventionnelle, qui sont habituellement les salles de réveil post-chirurgical, post-bloc opératoire, qu'on a transformé en réanimation. Et toute l'activité programmée qui était reportable a été arrêtée de manière à concentrer tous les efforts et toutes les salles où il y a des respirateurs et des possibilités de soins critiques en nouveaux lits de réanimation.
Agnès Ricard, bon, je vous propose d'écouter Anaïs. C'est une malade du coronavirus, elle a 48 ans, elle est en arrêt maladie depuis 11 jours. Le médecin puis le SAMU confirment que c'est le coronavirus. Après plus d'une semaine enfermée, Anaïs se retrouve seule à Vaucresson, en région parisienne, et elle angoisse.
Hier, j'ai regardé la télé, j'écoutais « Vous êtes stressé par le confinement, inspirez et expirez fort ». Et là, j'avais vraiment envie de balancer ma télécommande sur la télé, quoi. Je suis essoufflée dès que je bouge. Si, par exemple, je vais jusqu'à ma voiture, c'est pas possible. Ma voiture, elle est pas loin, hein. J'ai quelques marches à descendre. Je fais 5 stops pour remonter, vous voyez. Dès que j'inspire, j'ai les poumons qui brûlent. Et on a l'impression d'être dans une pièce avec moins d'air, en fait. C'est horrible, c'est très angoissant. Et heureusement que j'arrêtais pas de lire des témoignages parce que j'avais rien. Le mardi, j'appelle le SAMU et ils m'ont fait un petit test. Ils m'ont dit essayez de compter jusqu'à 15 sans reprendre votre respiration. Et j'arrivais jusqu'à 10. Ils m'ont dit si tout d'un coup vous n'arrivez vraiment plus à compter jusqu'à 5, vous nous rappelez.
On sent l'angoisse, la détresse de cette femme, Agnès Ricaribon. Pardonnez-moi, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de comptage ? C'est une façon de trier les malades ? Je n'aime pas ce terme, les médecins n'aiment pas ce terme, mais je suis quand même obligé de vous poser la question.
Alors, c'est une façon d'évaluer la difficulté respiratoire des personnes, effectivement, parce que lorsqu'on est en par téléphone, qu'on ne peut pas ausculter les malades, forcément, on est moins précis dans l'évaluation clinique que tous les patients. Il y a une grosse partie des patients qui vont guérir, hein, on le redit quand même, et qui n'ont pas forcément besoin de la haute technicité des hôpitaux et qui sont beaucoup mieux chez eux surveillés que d'être dans une structure de soins et d'encombrer d'un service d'urgence à mauvais escient. Donc on essaye justement de repérer les patients qui sont les plus à risque et qui justifient d'une hospitalisation et les patients qui peuvent encore rester à la maison mais avec une surveillance rapprochée. Et tout l'enjeu, c'est de réussir à les alerter sur ces signes d'aggravation pour qu'ils nous rappellent et qu'on puisse organiser l'hospitalisation si ces signes d'aggravation apparaissent. Et il faut des méthodes simples qui soient compréhensibles par l'ensemble du public pour pouvoir justement savoir quand il faut nous rappeler sans perdre de temps. Donc le comptage fait partie des méthodes d'évaluation que l'on peut donner comme autosurveillance.
Et il ne faut pas le prendre mal, c'est ce que vous dites aujourd'hui aux patients qui seraient amenés à appeler le 15.
Non, il ne faut pas le prendre mal, parce qu'au contraire, ce sont des signaux d'alerte pour que justement, on puisse donner comme conseil aux gens de nous rappeler. C'est cette surveillance, on sait qu'il y a une aggravation potentielle entre 7 et 9 jours, très souvent, on se passe bien, et puis de temps en temps, oui. Pour 5 à 10, 15% de la population.
Et c'est une façon aussi pour vous de rassurer les patients. Merci beaucoup Agnès Ricaribon d'avoir été en direct avec nous sur Europe 1. Merci d'avoir répondu à nos questions. Sachez que chez nos voisins britanniques, par exemple, les hôpitaux publics de Londres sont confrontés, je cite, à un tsunami continu de malades graves du nouveau coronavirus. C'est ce que déclare responsable du système de public de santé. Le personnel soignant est aussi grièvement touché, Raphaël.
Et chez nous en France, hein, Pierre, évidemment c'est le système D. La médecine de ville s'organise de toutes parts. À Miramas, tiens, on a mutualisé les forces pour agir le plus vite possible pour contrer justement le coronavirus, Nathalie Chevance.
Oui, et les consultations se déroulent dans un gymnase avec un cheminement pour les médecins, les infirmiers et les patients, totalement sécurisés dans différents box. Les cas suspects sont envoyés ici par leur médecin traitant. Après un premier échange par téléphone, un premier tri, ça évite de propager le virus dans les cabinets médicaux en ville. Car ici, tout le matériel est à disposition. Il y a des masques, des gants, des combinaisons. Pas de risque de propagation. Et si le diagnostic tombe, eh bien, le malade, suivant son état, peut effectivement être envoyé directement à l'hôpital. Une régulation en amont mise en place par une vingtaine de médecins libéraux avec le soutien logistique du maire de Miramas, Frédéric Vigouroux.
Le but premier, c'est d'éviter d'avoir des gens qui sont contagieux entre eux. Ce qu'on avait vu dans l'expérience en Italie ou ailleurs, c'est que dans les cabinets médicaux des médecins libéraux, se mélangeaient tout un tas de gens, y compris des gens qui étaient atteints par le Covid-19. Voilà pourquoi ce centre, ce C3, ce qu'ils appellent, est un centre de soutien à la médecine locale, de proximité. Je crois que tous les maires de France essayent de faire la même chose, et tous les médecins et toutes les professions de santé aussi. Donc, pour l'instant, c'est pas une histoire de coût, c'est une histoire d'efficacité, de pragmatisme, et d'éviter d'avoir une contamination large.
Et la ville de Miramas a engagé 100 000 euros pour ce centre de consultation qui a déjà accueilli une quarantaine de patients en 3 jours.
Merci Nathalie Chevance à Marseille pour Europe 1. À Mayotte, la situation est aussi très très difficile. Déjà 35 cas avérés au dernier décompte. Un chiffre, Pierre, largement sous-estimé. C'est en tout cas ce que dit l'Agence régionale de santé.
Oui, le premier test positif a été effectué le 14 mars. Un Mahoré de retour de la métropole. Depuis, c'est une course contre la montre pour éviter le pire dans un territoire très pauvre. La préfecture vient de renforcer les mesures de confinement. Mais le 101e département français où 80% de la population vit sous le seuil de pauvreté n'est pas aussi bien armée que la métropole pour lutter contre le virus. Justin Morin.
Un couvre-feu entre 20h et 5h du matin et des gendarmes à tous les ronds-points pour faire respecter le confinement. Leur présence rassure Saïd Moudouari, membre d'un collectif de citoyens, mais selon lui, ça ne suffira pas.
Aujourd'hui, nous ignorons qui c'est qui contamine. Ça fait peur, c'est frustrant aussi, parce que à Mayotte, on manque de tout. Avec mon bébé, j'ai du mal à avoir de l'eau facilement. Tout le monde s'est rué à la boutique, on a acheté les savons, il n'y avait plus rien. Donc même si on voudrait se prémunir, on n'a pas les moyens de le faire.
Sur l'île, un seul hôpital déjà surchargé, 16 lits de réanimation pour 400 000 habitants. Et une hantise, selon Dominique Voynet, ancienne ministre et patronne de l'ARS, que le virus pénètre dans les bidonvilles de Mamoudzou. Des dizaines de milliers d'habitants y vivent, sans eau ni électricité. Mansour Kamardine, le député Les Républicains, a lancé un appel au gouvernement.
Les gens ne pourront pas dire qu'on ne savait pas parce qu'ils ont été avertis bien amont. Si on n'apporte pas de réponse, on comprendrait comme étant une volonté d'abandonner dans ce désastre la population de Mayotte.
Avec la mission Résilience, Mayotte pourra compter dans les jours qui viennent sur le soutien du porte-hélicoptère Le Mistral et ses 69 lits médicalisés supplémentaires.
Bonjour Mansour Kamardine.
Bonjour.
Vous êtes député Les Républicains de Mayotte. On vient d'entendre le reportage de Justin Morin. Est-ce que vous pourriez nous dire un peu plus de ce qui se passe sur place?
Franchement, de vous à moi, il ne se passe pas grand-chose en termes de prise en charge de la situation. La situation est quasiment figée. L'hôpital a une capacité de tester 16 personnes par jour. Les résultats, souvent, quand les gens ont bénéficié de ces tests, arrivent 48 heures, voire 72 heures plus tard. Voilà la situation réelle. Mayotte manque de tout. Votre reportage l'a très bien dit. C'est la zone la plus pauvre de France. Le désert médical ici est une réalité. Enfin bref, il manque de tout. Et donc on est au devant d'un véritable tsunami qui s'annonce, d'une hécatombe, pour reprendre l'expression de notamment des soignants, qui sont eux-mêmes les premières victimes de la situation de désert que nous dénonçons.
C'est ce que vous disent effectivement les soignants. On va à l'hécatombe aujourd'hui si rien n'est fait. Qu'est-ce qu'on peut faire clairement aujourd'hui pour vous aider, Mansour Kamardine? On sait aussi qu'il y a un problème d'accès à l'eau.
Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Ce qu'on peut faire immédiatement, je crois que la décision de mettre à disposition le bateau militaire est une excellente chose, mais c'est insuffisant. Il faut aller plus loin, plus vite. Il faut absolument qu'on ait un avion cargo qui débarque avec du matériel ici, des masques. On a distribué des masques ici à La Réunion, des masques périmés. Vous voyez un peu le topo. Donc des masques, des gels, de la chloroquine. Vous savez, Mayotte est un... Pour ceux qui ne se sont pas rendus compte, Mayotte est un territoire tropical. Donc ici, on a consommé beaucoup de chloroquine. Ça n'a jamais posé de problème. Il faut absolument populariser le test. Ce qui se fait à Marseille avec le professeur Raoult est assez bien indiqué ici. Il faut absolument que tout le monde soit testé. Quelqu'un que vous avez parlé tout à l'heure le disait. Ici, quand on est testé positif, on met plusieurs jours avant d'aller s'intéresser à son environnement, ce qui est inacceptable.
Je me permets de vous couper pour qu'on précise bien la chloroquine parce que c'est un traitement contre le palu. Voilà.
La chloroquine est un traitement contre le palu. Ici, il y a eu le palu. Moi, j'ai pris la chloroquine, notamment à l'époque, la nivaquine, à l'âge d'un mois, parce que ma mère l'écrasait, le mettait dans l'huile de coco et m'embaumait tout le corps et ça me soignait déjà. Et puis plus tard, quand j'étais plus grand, j'ai pris la consommation de Nivaquine. Oui. Là, moi, j'ai pris une dotation pour moi si par malheur, demain, je devais être testé positif. Donc, nous n'avons pas à attendre qu'on soit testé. Je pense qu'on peut l'utiliser pour les pays tropicaux. On peut l'utiliser à titre préventif.
Et vous êtes d'autant mieux placé que vous la testez vous-même depuis l'enfance, Mansour Kamardine. Est-ce que, pardonnez-moi cette question qui revient tristement, cruellement, trop souvent en ce qui concerne Mayotte, est-ce que vous vous sentez abandonné par la métropole ?
On est totalement abandonné, il n'y a pas d'expression. Bon, encore une fois, le président de la République a fait un geste dans la bonne direction hier, mais ce geste est encore loin des attentes locales, donc il faudra aller plus loin. Ça, c'est mon sentiment. Sinon, on dira effectivement que c'est un peuple abandonné délibérément face au coronavirus.
Eh bien, merci de votre franchise, Mansour Kamardine, député Les Républicains de Mayotte, d'avoir été en direct avec nous de Mayotte.
Mélanie Gomez, vous le savez, répond à toutes vos questions hein, chaque jour au 3921 et avec le hashtag Radio Ouverte. Bonjour Mélanie.
Bonjour Raphaël, bonjour à tous.
Bonjour
Mélanie. Jean Bernard a 62 ans. On n'arrête pas d'entendre parler de la chloroquine. Justement, on en parlait à l'instant, soi-disant remède miracle ou pas, on ne comprend plus rien. Mais je me disais, il n'y a pas quelque chose de plus simple peut-être, faire des transfusions de sang de gens guéris, puisqu'on nous dit qu'on est immunisé après avoir guéri de la maladie. Est-ce que c'est une piste ou pas? Voilà la question de Jean Bernard.
Alors Jean Bernard, vous avez raison, c'est une piste de recherche. Un virologue de l'Institut Pasteur me l'a confirmé il y a quelques jours. En effet, essayer de récupérer des anticorps protecteurs contre le coronavirus dans le sang, le plasma de patients ayant guéri de cette maladie. On travaille déjà effectivement là-dessus. C'est donc à l'étude au moins dans deux situations. D'abord, pour mettre au point peut-être un jour un traitement préventif. Et il y a une équipe en Belgique qui bosse sur ce point. Ils ont déclaré, même si ça reste à confirmer bien sûr, qu'ils ont déjà trouvé un anticorps capable in vitro, c'est-à-dire pour l'instant que dans des tubes à essai bien sûr, d'empêcher le Covid-19 de pénétrer dans des cellules saines. À suivre donc. Et puis le Graal, hein, ce serait d'arriver surtout à prouver que ces anticorps issus de patients guéris, en les réinjectant à des malades, cela pourrait ralentir au moins l'infection, empêcher que le virus ne se multiplie dans le corps de ceux qui sont gravement atteints. Pour finir, il faut quand même savoir que bien sûr, même dans les médicaments existants, on n'est pas en train de tester que la chloroquine. Des chercheurs ont déjà commencé des tests avec d'autres médicaments, des antiviraux qui fonctionnent dans le VIH, d'autres qui ont été testés contre le virus Ebola, et même d'autres molécules qui n'ont rien à voir avec les virus sont en train d'être évaluées partout dans le monde. Certaines équipes étudient l'efficacité d'un traitement contre l'hypertension ou même contre l'inflammation. Bref, il faut vraiment savoir que toute la communauté scientifique est mobilisée à travers le monde.
Question pratique pour vous, Mélanie. C'est Isabelle de Bois-Colombes en région parisienne qui a une ordonnance pour faire refaire ses lunettes de vue. Elle a été faite par son ophtalmo avant le confinement. Puis-je aller chez mon opticien avec une dérogation ou est-ce que c'est interdit ?
Alors Isabelle, je comprends votre inquiétude. Les lunettes comme les appareils auditifs, c'est vraiment indispensable pour garder un semblant de vie normale pendant cette période si compliquée pour nous tous. Hein. Alors c'est vrai, les boutiques d'optique, comme la majorité des commerces, sont fermé leurs portes depuis le début du confinement. Néanmoins, les opticiens se sont organisés pour s'assurer aux gens de s'équiper en lunettes comme vous. Ou même en lentilles, ou même qui ont juste besoin de les remplir parce qu'il y a eu de la casse, hein, par exemple, parce que le petit dernier à bout de nerfs dans la maison a écrasé les lunettes de papa ou maman. Ben, vous
Mais
inquiétez pas, il y a
nous
des
avons
solutions.
Un petit problème de liaison avec vous. Alors peut-être qu'on a une possibilité de vous joindre. Non, on me dit que non. Alors on va se retrouver après la publicité et surtout Mélanie Gomez. Vous avez une mission, c'est de répondre à cette même question sur les lunettes tout à l'heure à 15h dans votre émission. Il est midi 22.
Europe 1, Pierre de Villeneuve, Raphaël Duchemin.
Le trafic de masques, Pierre, on vous en parle hein, depuis le début de l'épidémie de coronavirus. Certains n'hésitent pas à braver l'interdit pour se faire de l'argent.
Ouais, et c'est le cas par exemple d'une pharmacienne de Nice, Frédéric Michel.
Effectivement, hein, Pierre, ici un proverbe dit qu'avec l'âge vient la sagesse. Ce n'est pas tout à fait le cas dans cette affaire. À 71 ans et sans antécédent judiciaire, cette pharmacienne niçoise a joué, il faut bien le dire, les apprentis délinquants en vendant des masques à des particuliers, 4,50 € l'unité et en refusant de les délivrer à des professionnels de santé. C'est d'ailleurs pour cela qu'elle a été dénoncée. Hein. Certains masques proviennent de livraisons de l'État au profit des hôpitaux ou des EHPAD. Xavier Bonhomme est le procureur de la République de Nice.
C'est des clients qui ont signalé cette pratique. Le personnel de la pharmacie a été entendu et a confirmé que ces pratiques étaient faites à la demande de la patronne de cet établissement. Les perquisitions ont permis de saisir donc un lot d'une centaine de masques qui restaient à la vente et également des flacons et du matériel de gel hydroalcoolique fabriqué de manière tout à fait artisanale, sans étiquette conforme.
Alors cette pharmacienne reconnaît la vente de ces produits pour 200 € par jour avec une marge d'environ 45 euros. Elle explique qu'elle n'avait pas la connaissance des directives de l'État. Elle encourt 2 ans de prison et 300 000 euros d'amende et elle sera jugée en comparution immédiate dès cet après-midi.
Alors, autre cas, toujours dans votre région, Frédéric, à Grasse, 2 hommes arrêtés pour un trafic, cette fois de masques FFP2, les plus recherchés, évidemment.
Oui, effectivement, ces masques FFP2, les personnels de santé en réclament. Les 2 hommes, un jeune docteur en pharmacie et un restaurateur, auraient monté une combine à grande échelle, livrant même les masques aux clients demandeurs. Au domicile de ce gérant de fast-food, 200 masques ont été saisis. Lui nie les faits et assure qu'il les avait achetés pour ses livreurs. Il se fournissait auprès d'un complice, docteur en pharmacie, qui aurait reconnu avoir obtenu ces masques par son réseau professionnel. Il les revendait 10 euros pièce.
Merci Frédéric Michel, un docteur en pharmacie. L'incivilité va quand même assez loin dans ce pays en cette période particulière. Nous allons voir que ce trafic est, et pas seulement, est sous haute surveillance de la gendarmerie nationale, puisque nous sommes en ligne avec Maddy Scherer, porte-parole de la gendarmerie nationale. Bonjour colonel.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous déplorez aussi, avec ce Covid-19, la mort d'un premier gendarme.
Oui, vous avez raison. Hier, donc, nous avons appris cette triste nouvelle. Un camarade est décédé alors qu'il présentait des signes de suspicion du Covid-19, effectivement. Nous sommes, mais évidemment, nos pensées sont tournées vers sa famille, ses proches, ses amis. Voilà, ça crée de l'émotion, évidemment, dans nos rangs.
Justement, vous avez entendu le témoignage juste avant de Frédéric à Grasse, mais aussi avec cette pharmacienne qui disait à Nice ne pas être au courant. On parlait à l'instant du trafic de masques. Quel est le constat que vous faites, vous? C'est des choses que vous avez à gérer au quotidien, des faux vaccins, de la chloroquine, il y a beaucoup de choses qui sont sur la table en ce moment.
Il y a évidemment un certain nombre d'actes de délinquance une nouvelle délinquance en fait, qui apparaît avec quelques occasions créées par les circonstances dans lesquelles nous nous trouvons actuellement. Ce que l'on constate au quotidien quand les gendarmes essaient de faire appliquer les règles de confinement au quotidien, sur les routes, dans les grands espaces publics, etc., c'est que même si une grande partie de la population se conforme aux règles, malheureusement, une partie de la population s'affranchit des consignes qui ont été données, ce qui est quand même regrettable puisque nous traversons une crise sanitaire importante. Notre mission à nous, gendarmes, évidemment, c'est de freiner la propagation de cette épidémie en demandant aux gens de respecter le confinement. Eh bien, malgré cela, nous avons un certain nombre nous déplorons un certain nombre de comportements de gens qui s'affranchissent de ces règles et qui, finalement, pour des questions de loisirs personnels ou des questions très individuelles ou individualistes, finalement, refusent de jouer le collectif. C'est vraiment déplorable.
Pour cela, quelle méthode? Il y a le punitif, évidemment. D'ailleurs, il y a tout un arsenal de verbalisation, mais pas que. Est-ce que vous arrivez quand même à accompagner les citoyens à observer un peu plus de civisme? On devrait même pas vous poser la question, mais malheureusement, ouais. c'est le cas aujourd'hui.
Nous avons fait beaucoup de pédagogie au moment de la mise en place du confinement pour expliquer comment fonctionnaient les attestations. Puis, rapidement, il a fallu passer sur des consignes de fermeté, puisqu'un certain nombre de gens avaient du mal à se conformer à ces règles, malheureusement. Aujourd'hui, ce que l'on constate, c'est que, alors, il y a des gens qui se déplacent dans le cadre des dérogations qui sont accordées, et ça, on le contrôle, on est là au quotidien pour le vérifier. Il y a des gens qui, malheureusement, essayent de contourner la règle et pour des questions de loisirs, continuent à chercher à sortir indépendamment des consignes qui ont pu être données. Et puis, malheureusement, nous avons aussi affaire parfois à des individus qui deviennent violents ou en tout cas qui agressent les forces de l'ordre dans l'exercice de cette mission. Et ça, c'est véritablement inacceptable.
Oui, on l'a vu hier à Beauvais notamment. Est-ce qu'il y a toujours du trafic de drogue malgré le confinement?
Mais écoutez, ça, ce sont des questions finalement, des questions de en lien avec la délinquance. Vous savez, nous poursuivons l'ensemble de nos missions sur le terrain, même si nous sommes très engagés dans l'application des mesures de confinement, parce que c'est vraiment l'intérêt général. Néanmoins, nos unités restent bien sûr en mesure d'intervenir sur l'ensemble des infractions.
Je vous pose la question parce que le général Lecouf, ce matin, chez nos confrères du Parisien, qui est à la tête de la sous-division de la police judiciaire de la gendarmerie, disait que maintenant, les gens ont recours au darknet, c'est-à-dire qu'ils vont plus se déplacer et il y a donc des systèmes de livraison. C'est terrible à dire, mais de la même façon qu'une pizza, on va commander sa drogue.
Alors écoutez, vous savez, on surveille beaucoup aussi l'espace cyber. Vous avez raison d'en parler, il faut le dire, parce que c'est un espace qui nécessite toute notre attention actuellement pour éviter que ce type de comportement ne se développe. Donc il y a une attention particulière à porter sur l'ensemble et toutes les formes de la délinquance, quelles qu'elles soient. Et c'est vrai que dans ces circonstances un peu particulières, chacun essaye de s'adapter, d'adapter son mode de vie. Malheureusement, les trafiquants essayent parfois de poursuivre aussi leurs activités. À nous de nous adapter pour trouver les solutions pour être efficaces dans la lutte contre ce type d'infraction.
Eh bien, merci, lieutenant-colonel Scheurer, d'avoir été avec nous. Vous êtes porte-parole de la gendarmerie nationale.
Et hier, hein, vous l'avez entendu, Emmanuel Macron, dans son allocution à Mulhouse, a voulu rendre hommage, Pierre, à ceux qui étaient au front.
Alors, nous vous proposons ce portrait croisé dans une famille. Lui est CRS, elle est infirmière en réanimation. Ils ont un fils de 3 ans et demi. Comment s'organiser lorsqu'on doit absolument aller travailler? Pour eux, c'est simple, Xavier reste à la maison et s'occupe de son fils. Marion Dubreuil.
Alors, mon petit loup, qu'est-ce qu'il fait comme travail, papa? Policier. Et maman, elle fait quoi comme travail?
Infirmière.
Xavier a laissé de côté son uniforme de CRS.
Depuis le confinement, je garde mon petit garçon qui a 3 ans et demi. Ça a été un choix de notre part. Ma compagne étant infirmière, elle est entre guillemets sollicitée sur tous les fronts.
Et pourquoi on ne peut pas sortir en ce moment?
Parce qu'il y a un virus.
Hors de question d'alterner une semaine sur deux, là aussi pour des raisons sanitaires.
Si j'avais pris juste la première semaine et qu'après on avait inversé avec ma compagne, j'aurais très bien pu être un porteur sain ou non déclaré. Je pourrais très bien contaminer toute une compagnie et je pourrais très bien aller contrôler des gens dans la rue, pouvoir justement propager le virus. Donc ça a été un choix de raison.
Depuis 10 jours, Xavier vit donc un quotidien bien éloigné de ses missions de police.
En CRS, on est les couteaux suisses de la police nationale et donc là, la nouvelle mission, c'est s'occuper de son enfant H24. On est obligé de faire de la pâte à modeler, de la pâte à sel, des crêpes, des gâteaux. Voilà, c'est différent.
Et toi, c'est quelle lettre ? En attendant de reprendre du service, c'est le ministère de l'Intérieur qui lui verse l'intégralité de son salaire.
Marion Dubreuil. Et quand on parle de l'allocation d'Emmanuel Macron, il a été également une nouvelle fois très clair hier soir à Mulhouse. Il faut rester unis dans cette guerre contre le virus, cesser les divisions, message adressé en filigrane aux chercheurs de coupables. Ça n'empêche que des médecins veulent reprocher à l'exécutif la gestion de la crise du coronavirus. Bonjour maître Fabrice Divisio.
Bonjour.
Vous représentez le collectif C19, 600 médecins qui portent plainte contre Agnès Buzyn et Édouard Philippe. Plainte contre quoi?
Bah, plainte contre quoi? Donc plainte contre qui? D'abord effectivement Agnès Buzyn et donc Édouard Philippe, et plainte effectivement pour s'être abstenu volontairement d'avoir pris des mesures au moment où est encore possible de le faire, propre à permettre d'éviter le fiasco que nous traversons en ce moment. Même Buzyn
fiasco,
et Monsieur Philippe ont
fait. C'est un mot violent, fiasco.
Bah parce que vous considérez effectivement, il faut se poser la question différemment, peut-être qu'il faut arrêter les filigrammes, les sous-entendus et appeler un chat un chat. C'est pas moi qui ai prononcé le mot de guerre. C'est pas violent une guerre. Si on est en guerre, la question qu'on peut raisonnablement se poser, c'est est-ce qu'on est en guerre parce qu'un ennemi nous a déclaré la guerre ou est-ce qu'on est en guerre parce qu'à un moment, on n'a pas su préserver la paix? C'est une vraie question.
Alors, puisqu'il faut appeler un chat, pardon de vous la poser comme ça, mais est-ce que c'est le bon moment pour faire ça?
Je ne sais pas, dites-moi ce que c'est que le bon moment.
Moi, tout à l'heure, je vous pose la question.
J'ai entendu effectivement quelque chose d'intéressant juste avant, pendant que j'attendais. Je crois que vous avez interrogé un lieutenant-colonel de gendarmerie qui vous expliquait que les confinements qui n'étaient pas respectés étaient passibles de sanctions et qui vous expliquait un petit peu tout son travail avec l'arsenal répressif qui allait ensemble. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'effectivement, la France d'en bas, qui ne respecte pas les règles, est punie et c'est le bon moment. Mais la France d'en haut, qui ne les respecte pas, c'est pas le bon moment. Qu'est-ce que c'est que cette différence de traitement? Moi, vous savez, si le chef de l'État voulait abolir la possibilité de saisir une cour pendant le temps du confinement, il n'avait qu'à le faire. Mais moi, mes clients, ce qu'ils ont dit, nous avons un droit, et à partir du moment où nous commençons à devoir nous justifier sur l'exercice de ce droit, bah, ça commence quand même à être inquiétant, non ? Je veux dire, est-ce qu'on se pose la question de savoir... Alors, l'unité nationale, j'ai entendu ce mot souvent cette semaine. Est-ce que les médecins qui n'ont pas de masque ont le droit d'en revendiquer ? Ou est-ce que le fait de revendiquer constitue une atteinte à l'unité nationale ? Est-ce que quand vous allez effectivement finir en réa parce que vous n'avez pas de masque et que vous êtes toute la journée au contact des patients, est-ce que ça aussi, vous avez le droit effectivement de vous plaindre ? Qui détermine l'étendue de mes droits ? C'est pas au chef de l'État de venir effectivement déterminer l'étendue de mes droits, c'est à la loi de le déterminer. Moi, je n'ai fait qu'exercer un droit que nous tenons des textes. Quant à la question de savoir si c'est le bon moment ou pas, c'est pas une vraie question dans un État de droit. La vraie question dans un État de droit, c'est est-ce que j'exerce finalement le droit dans le temps dans lequel il est permis, le seul temps que connaisse le juriste, c'est celui de la prescription. Il n'est jamais trop tôt pour agir. Il peut parfois être trop tard pour agir.
Maître Duvisio, qu'est-ce que vous espérez au bout de cette procédure ?
La vérité. La vérité.
Oui, mais de quelle façon ?
On n'est pas... C'est intéressant ce que vous disiez tout à l'heure, que en fait, Emmanuel Macron a fustigé les chercheurs de coupables. Je crois qu'il ne faut pas se tromper. Moi, j'ai un respect profond pour la présomption d'innocence, mais je note que Mme Buzyn, dans le Monde, est venue jeter une bombe nucléaire qui, effectivement, elle-même a rompu l'unité nationale. Madame Buzyn, j'ai un ministre, a le droit d'aller dans un journal du soir et dire « Je vous ai menti depuis le départ et je n'ai rien fait. » Et ce, probablement, effectivement, volontairement.
C'est pas exactement ce qu'elle a dit. Vous interprétez,
Maître Duvisio. C'est pas exactement... Non, j'interprète pas. Elle a exactement dit « Je savais, effectivement, depuis le 20 décembre que le virus allait arriver en France. J'ai averti le Premier ministre et j'ai envoyé un message à M. Emmanuel Macron, tandis que j'ai averti le directeur général de la Santé que quand j'ai quitté le ministère, j'ai les larmes aux yeux parce que je savais que le tsunami qui allait s'abattre sur nous. » Je reprends ses déclarations. Et donc, à la question « qu'est-ce que j'attends ?», j'attends qu'on vienne m'expliquer pourquoi. Est-ce que s'il est exact que Mme Buzyn a averti tout le monde, pourquoi est-ce que personne n'a agi avant, au moment où il est encore possible de faire quelque chose ?
Maître, vous souhaitez aussi d'autres réponses, hein, si j'ai bien compris. Vous attendez qu'on vous dise ce qui a réellement été fait, notamment sur les commandes de masques.
Bah, regardez, la commande de masques, c'est intéressant. Moi, on n'arrête pas d'appeler mes clients ou moi-même, d'ailleurs, avec des mails, avec des appels, en disant « Regardez, je ne comprends pas, moi j'ai une entreprise en Chine, j'ai écrit au ministère de la Santé pour dire qu'on pouvait produire 500 000 unités jour. Ça fait 3 fois, 4 fois que j'écris et on n'a pas de réponse. Et ce, il y a déjà au moins une quinzaine de jours, puisque les unités de production ont repris il y a au moins une vingtaine de jours. Et je ne comprends pas pourquoi on ne m'a pas répondu. Et on est en mesure de livrer tout ça sous 3 jours ouvrables. Bon, bah, moi je ne sais pas, mais le ministère nous dit « Moi j'ai commandé des masques, ils arrivent. » Mais vous les avez commandés quand ? Combien ? Puisque, et c'est intéressant de savoir, ça s'appelle un document administratif. Le contrat est un document administratif, la facture est un document administratif. Le citoyen, dans cette affaire, n'a pas que des obligations et des contraintes de rester en confinement, mais il a aussi un droit légitime qui est prévu par les textes, qui est de savoir. Le devoir de transparence, a dit le ministre. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est lui qui l'a dit. Eh bien, en toute transparence, moi, je voudrais comprendre pourquoi des entreprises m'appellent pour me dire et m'envoient des mails avec copie des mails envoyés au ministère pour dire qu'elles peuvent produire 500 000 masques jour, plusieurs entreprises, et qu'actuellement, on n'arrive toujours pas à avoir des masques. C'est une question légitime.
C'est une question et elle sera sûrement tranchée dans les semaines qui viennent. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Maître Fabrice Duvisio.
Et si nos téléphones portables pouvaient servir à endiguer l'épidémie de coronavirus ? C'est l'idée d'un partenariat qui est en train de se monter entre Orange et l'INSERM, l'Institut National pour la Recherche Médicale. Clément Le Saffre, expliquez-nous comment ça fonctionne.
Eh bien, Orange va fournir à l'INSERM les données de géolocalisation de nos téléphones. Elles sont collectées automatiquement à chaque fois que l'on se sert de notre mobile, mais elles sont agrégées et totalement anonymisées. Il ne s'agit donc pas d'un traçage. Ces données permettent de repérer où se concentrent les populations et comment elles se déplacent. Elles servent habituellement pour le secteur du tourisme, mais cette fois, elles vont être utilisées dans un but médical. En observant les déplacements des Français avant et après le confinement, on pourra anticiper et freiner la propagation du coronavirus. Eugenio Valdano est l'un des chercheurs de l'INSERM en charge du projet.
On prendra ces données et on les intégrera dans des modèles qu'on développe, qu'on a déjà développés, qui prennent la situation épidémique aujourd'hui et nous permettent de prédire à court terme qu'est-ce que sera la situation épidémique future et aussi de prévoir la surcharge, par exemple, sur le système hospitalier.
Alors normalement, ce genre d'analyse prend des mois, mais le temps manque. On doit aller plus vite que le coronavirus, explique le chercheur qui espère pouvoir publier de premiers résultats dans les prochaines semaines.
Merci, c'était l'enquête de Clément Le Saffre. On parle encore et toujours, malheureusement, tristement, de ces Français bloqués à l'étranger. Pauline Jacquot, on suit ce dossier avec vous depuis le début de l'épidémie du coronavirus. Le chiffre encourageant aujourd'hui, eh bien, c'est que 100 000 Français ont déjà pu rentrer.
Oui, il y a d'abord ces milliers de Français qui attendent toujours de pouvoir rentrer en France. Ce sont des vacanciers bloqués dans plusieurs pays en Asie, aux Philippines et au Cambodge par exemple, en Amérique du Sud. Au Pérou notamment, ils sont plus de 1000 personnes à attendre des nouvelles de l'ambassade de France. Certains commencent évidemment à perdre patience, comme Marie, elle est infirmière à l'hôpital.
Je suis en réanimation médicale et je laisse en fait mes collègues dans une situation qui est quand même catastrophique. Et je suis dans l'incapacité de dire à ma cadre de santé quand est-ce que je peux revenir, quand est-ce qu'ils vont pouvoir compter sur moi.
Et puis il y a tous ces Français qui habitent à l'étranger, des étudiants, des salariés. Eux aussi sont concernés selon Anne Jeuneté, la députée des Français de l'étranger. Elle était l'invitée d'Europe 1 ce matin et certains d'entre eux, explique-t-elle, sont en train de vivre des situations très difficiles.
800 000 Français qui pourraient être expulsés ou en demande de rapatriement vers la France. En ce moment, on a des jeunes Français qui dorment dehors en Australie, qui n'ont pas de logement, qui n'ont plus de ressources. Donc nos consulats ont besoin d'argent frais pour pouvoir leur offrir de quoi manger, de quoi être hébergés, en attendant qu'un hypothétique retour vers la France soit installé. Et là, on rentre dans une galère terrible. Les uns derrière les autres, les vols dits commerciaux s'annulent. Sur l'Australie et la Nouvelle-Zélande, on n'a plus de vols commerciaux.
Il y a aussi évidemment l'aspect financier. Certains Français, dit-elle, ont dépassé leur plafond de carte bleue et ne peuvent plus payer de billets d'avion.
Pauline Jacquot, on le savait, mais on a ce matin une idée un peu plus précise de l'impact économique du coronavirus. L'économie française tourne actuellement aux deux tiers de ses capacités normales. C'est l'INSEE qui l'a chiffré ce matin, Emmanuel Duteil.
Oui, hein, l'INSEE a interrogé les entreprises pour savoir comment elles tournent en ce moment. Elle a aussi regardé comment se passe le trafic ferroviaire. Elle a collecté les données de consommation d'énergie, le nombre de transactions par carte bancaire. C'est ça qui permet d'avoir une photographie un petit peu plus claire de la situation. Et ce qui leur sort, c'est que l'activité s'est effondrée ces dernières semaines. Alors si on quantifie un peu, l'INSEE nous dit que ça représente une perte de PIB de 3 points si le confinement dure un mois. Si on convertit cela en euros, ça veut dire environ une perte de 80 milliards d'euros. Et l'INSEE nous dit que si ça dure deux mois, eh bien il faut multiplier par deux la perte. Alors après, tous les secteurs ne sont pas concernés de la même façon. Si on regarde là encore dans le détail, l'agroalimentaire est à peine ralenti, l'industrie est totalement à la peine et les services sont largement à l'arrêt. Dans les services, hein, sont particulièrement affectés les transports, l'hôtellerie, la restauration, les enseignes de textiles, hein, dont les magasins ont été fermés. Malgré tout, ce sont des estimations pour le moment et c'est bien compliqué quand même, hein, d'avoir des certitudes, car le creux n'est peut-être pas atteint, nous dit l'INSEE. C'est pour cela notamment que l'INSEE ne fera pas pour le moment de prévision de croissance.
Emmanuel Duteil, du côté des États-Unis, les munitions de la Fed ne vont pas s'épuiser pour soutenir l'économie. Voilà ce que dit le patron de la Fed, alors que je vous le rappelle, les États-Unis sont partis pour un plan de soutien de 2 000 milliards de dollars, Raphaël.
Alors on parlait des secteurs qui ont du mal en ce moment, Pierre, eh bien il y en a d'autres qui fonctionnent. C'est le cas par exemple des télécoms. Le patron d'Orange, Stéphane Richard, l'a dit d'ailleurs ce matin sur Europe 1. Écoutez.
Dans l'ensemble, compte tenu de la surcharge considérable que nous avons connue depuis 8 jours, hein, je vous donne quelques chiffres rapides. Le trafic voix sur les réseaux mobiles multiplié par plus de 2, le télétravail multiplié par 7, le trafic Internet sur les réseaux fixes, il est en augmentation en moyenne de 30%, ce qui paraît pas beaucoup, mais qui en fait est considérable. Et surtout, il est étalé en permanence sur la journée. Avant, vous voyez, on avait des pics de charge le soir, d'accord, par exemple sur Netflix. Aujourd'hui, c'est toute la journée. Donc on a aujourd'hui une surcharge considérable, les réseaux sont dimensionnés pour faire face à cette surcharge, et donc je vous dis, là je vais être totalement rassurant par rapport à tous vos auditeurs et nos auditeurs, oui ces réseaux vont tenir et on les supervise en permanence.
Les réseaux télécom vont tenir, dit Stéphane Richard sur Europe 1 ce matin, le patron d'Orange avec Mathieu Béliard. Et puis, un autre secteur qui marche, et c'est logique. Je ne sais pas, Raphaël, comment est-ce que vous vous débrouillez pour faire du sport à la maison ?
Tout,
mais en tout cas, voilà, c'est une des grandes préoccupations en ce moment, en ce confinement, de très nombreux s'y sont mis ou remis à ce sport. Et le business du matériel en profite, certains fournisseurs sont même débordés, Jean-François Pérez.
Oui, c'est vrai qu'on parle de produits basiques comme les tapis d'entraînement, les cordes à sauter ou encore les rameurs ou les vélos d'appartement. La hausse des ventes est impressionnante depuis le début du confinement. Axel May a joint Virgile Caillé, il est délégué général d'Union Sport et Cycle, qui regroupe de nombreuses enseignes de la filière sportive.
On est effectivement sur une augmentation de l'activité de vente des produits classiques de l'ordre de 200 ou 300%. Ce qui est extrêmement important, ça traduit le fait que les Français sont vraiment en manque de sport, ont absolument besoin d'avoir une activité physique au quotidien et même dans leur appartement.
Et cela marche bien, trop bien même dans cette France où tout tourne au ralenti. Les fournisseurs peinent à tenir le rythme de cette demande aussi soudaine que massive. Virgile Caillé.
Il y a beaucoup de commandes, il n'y a pas forcément autant de livraisons et finalement les marques sont quand même dans une difficulté permanente pour arriver à gérer à la fois leur effectif, à la fois les livraisons et les problématiques d'approvisionnement.
Voilà, reste à savoir si l'explosion du marché en ligne compensera le manque à gagner de la filière du matériel de sport en magasin. Et hélas, Raphaël, Pierre, ce n'est clairement pas la tendance.
Merci Jean-François Pérez. L'actualité, c'est aussi les chiffres qui nous parviennent au fur et à mesure. Le dernier, je vous le donne, c'est en Espagne, plus de 4000 morts recensés, Pierre, et 56 000 cas à travers le pays. Et c'est d'ailleurs dans ce contexte que va se tenir un sommet européen virtuel. Ça va se passer cet après-midi.
Oui, les 27 dirigeants européens veulent déjà commencer à réfléchir à l'après-crise. 9 pays, dont la France, réclament plus de solidarité entre Européens et la mise en place d'emprunts communs que certains appellent déjà des Corona Bonds, Isabelle Horry.
Oui, comment reconstruire nos économies quand la tempête sera passée? C'est la question qui agite déjà les capitales. Au nord, chez les pays fourmis, Allemagne ou Pays-Bas, le premier réflexe, c'est de se dire que dès que ça sera fini, retour de la rigueur. Surtout que tout le monde aura dépensé sans compter. Ce n'est pas du tout l'analyse des 9 signataires de la lettre adressée au président du Conseil européen. Eux veulent franchir un cap dans la solidarité européenne. Est-ce qu'on va laisser un pays comme l'Italie seul face aux défis à venir, s'interroge un conseiller de l'Élysée. À Paris, on pointe que si certains systèmes de santé sont autant sous pression aujourd'hui, c'est justement à cause des coupes budgétaires exigées après la crise financière. Cette fois, Espagnols, Irlandais ou encore Français plaident donc pour que la zone euro, dans son ensemble, emprunte sur les marchés et prête ensuite sans condition à chaque pays. Ça permettra d'avoir des taux d'intérêt plus bas. L'objectif, c'est pas d'y arriver dans les détails ce soir, admettent les signataires. L'objectif, c'est d'être prêt au moment opportun. Un délai nécessaire aussi pour espérer un compromis avec les plus frileux.
Isabelle Horry, correspondante d'Europe 1 à Bruxelles. Pour la première fois, peut-être, depuis le début de cette épidémie, l'OMS nous envoie un signe positif. L'Organisation mondiale de la santé dit qu'il existe des signes encourageants de ralentissement du coronavirus sur le continent européen, en dépit d'une situation toujours grave. Midi 48.
Europe 1. Restez avec nous sur Europe 1. Le Tour de France cet été peut être sans public, mais aussi des lettres pour maintenir le lien avec nos aînés. C'est la suite de votre grand journal. À tout de suite sur Europe 1.
Europe 1, Pierre de Villeneuve,
Raphaël Duchemin.
Nous vous parlions de la situation alarmante dans les EHPAD. Pierre, nos aînés abandonnés à eux-mêmes, ils ne peuvent plus recevoir, vous le savez, de visite.
Alors pour rompre cet isolement et leur transmettre un peu de bonheur, 10 cousins âgés de 14 à 24 ans ont décidé de lancer un projet. Ça s'appelle « Une lettre, un sourire ». Ils invitent tous ceux qu'ils souhaitent à écrire un courrier à une personne âgée. Reportage de Benjamin Péter.
Chère madame, nous ne nous sommes jamais vus et je suis pourtant si heureux de vous écrire. Dans les temps si étranges que nous vivons, il est important de manifester toute la solidarité dont peut faire preuve la nature humaine.
C'est par ces mots qu'Yvain débute sa lettre. Elle sera ensuite transmise à un EHPAD, imprimée et remise à une résidente. Il ne connaît pas son nom, mais dès qu'il a entendu parler de ce projet, il a tout de suite voulu participer.
Même coincé chez nous, la lumière nous rappelle que l'espoir est toujours là.
Et ça permet vraiment de leur montrer qu'on est tous un petit peu dans cette solitude en ce moment. C'est hyper facile en fait d'envoyer une lettre et de soutenir quelqu'un, de lui envoyer de l'amour et de l'espoir. Je me suis dit pourquoi pas.
C'est Renaud d'Alençon et plusieurs de ses cousins qui ont eu cette idée au début du confinement pour rompre l'isolement des personnes âgées qui ne peuvent plus recevoir leurs proches. En 48 heures, ils ont lancé leur association, leur site internet et depuis 5 jours, ils ont reçu 2500 lettres d'anonymes.
On est complètement submergé. Ça prend une dimension incroyable. Les personnes, elles sont heureuses d'écrire. Elles expriment leur joie de donner du bonheur. C'est des très belles lettres, très profondes, bien écrites. Il reste de l'amour dans ce monde. Et il y en a beaucoup même.
Alors les premières lettres ont déjà été remises et pour participer, il suffit d'un peu d'inspiration et de s'inscrire gratuitement sur le site d'une lettre, un sourire. Les EHPAD peuvent aussi s'inscrire pour être destinataires de ces courriers sous forme numérique ou par courrier papier.
Et puis ça fait du bien de reprendre l'écriture. On passe au sport. Vous l'avez vu ces dernières semaines, toutes les compétitions sportives sont reportées ou même annulées. Même les JO de Tokyo sont remis à l'année prochaine.
Les organisateurs du Tour de France, eux, semble-t-il, veulent y croire encore. Et la dernière idée, formulée d'ailleurs par la ministre Roxana Maracineanu, ce serait un tour à huis clos. Hypothèse crédible, Axel, mais comment est-ce réalisable alors que l'épreuve attire chaque année jusqu'à 12 millions de spectateurs le long des routes ?
Eh bien, il y a une phrase qu'aime habituellement répéter le directeur de l'épreuve, Christian Prudhomme. Le tour, c'est 4000 km de sourire. Alors peut-on imaginer que le peloton traverse cet été la France sans public, sans aucun sourire le long des routes ? L'organisateur ASO a testé sur une autre de ses courses, Paris-Nice, au début du mois, les arrivées d'étapes sans public. Sauf que ce qui est faisable sur une épreuve d'une semaine semble bien plus compliqué à mettre en place sur un tour de 3 semaines qui se tient en plus au cœur des grandes vacances, en admettant bien entendu que la grande boucle s'élance comme prévu le 27 juin. Interrogé sur un éventuel huis clos, voici ce que répond le coureur Romain Bardet, l'un des meilleurs Français de ces dernières années.
Il faudra peut-être prendre garde à ne pas dénaturer l'événement, mais il me semble aussi compliqué de penser que le Tour de France 2020 puisse être identique à celui qu'on a vécu l'an dernier en termes de présence physique et de spectateurs sur le bord de la route, c'est sûr.
Joint par Europe 1 ce matin, des directeurs d'équipe disent « c'est mieux que rien, mieux vaut un tour sans public que pas de tour du tout ». Et puis, pas de public, cela voudrait dire surtout pas de caravane publicitaire. Selon les estimations, près d'un spectateur sur deux vient sur le tour pour la caravane.
Merci Axel May.
C'est un commerce considéré comme non essentiel qui a fermé il y a plus de 10 jours maintenant avant le confinement. Pierre, et je vous invite à regarder à la fin du confinement les photos avant, après, hein, les miennes notamment. Vous allez voir la différence.
Ouais. Et c'est un commerce qui va devenir indispensable, hein, pour certains. Moi, je suis effectivement concerné comme vous. Le salon de coiffure, le confinement qui doit encore durer quelques longues semaines, risque de faire des dégâts. Pierre Herbulot.
Tous les jours, elle gagne du terrain. Ses racines blanches sur la tête brune de Diane qui n'a pas la chance de télétravailler. Le confinement lui donne des cheveux blancs et c'est bien ce qui l'inquiète.
Gros stress, évidemment. Qu'allait-il advenir de mes cheveux et de ma teinture ? Il a fallu agir. Aussitôt l'annonce du confinement faite, j'ai missionné ma fille pour aller me chercher de la teinture à cheveux pour pallier à la catastrophe annoncée.
Pour tout vous dire, je ne suis même pas sûre d'avoir pris la bonne couleur. Hein. Va falloir faire plusieurs essais, je pense.
Oui, puisqu'apparemment, il existe plusieurs teintes de brun.
Vous n'y connaissez vraiment rien.
Bon. Pour Marc, au moins, ce n'est pas un problème de couleur, mais de longueur. Il aurait bien besoin d'un petit coup de ciseau.
C'est vrai que je me suis regardé dans la glace et je me suis dit, si on est encore là pendant un mois, il va falloir y penser un moment, je pense.
Problème, il est confiné avec sa femme, extrêmement malhabile dans le rôle de coiffeur de substitution.
C'est-à-dire qu'une fois, elle m'a coupé donc avec la tondeuse et arrivée sur le côté au niveau des oreilles, elle est montée un petit peu trop haut. Ce qui fait que ça fait une petite marque. Mais au pire, si elle me rate, c'est pas non plus trop grave.
C'est même peut-être l'occasion ou jamais de tenter la boule à zéro. Dernière idée brillante de challenge des adolescents sur les réseaux sociaux.
Voilà, chacun fait comme il peut.
Ça promet.
Moi,
en tout cas,
je fais comme Mathieu Béliard. Je l'ai entendu ce matin, qui ne se rase plus. Moi non plus, je fais la barbe du confinement. Et on verra jusqu'où ça pousse.
On veut la photo, Pierre.
Pour l'instant, ça va. C'est encore un peu décent. Allez, on termine avec un peu de musique. Parce qu'à défaut de pouvoir être dans les salles de spectacle, les artistes sont nombreux à faire des concerts depuis chez eux, sur les réseaux sociaux. Au point qu'aujourd'hui commence même un festival en ligne. Le Sofa Festival. Depuis son canapé.
Génial.
En Châtelier.
Comme un vrai festival, il y a une programmation ficelée. Alain Souchon en concert vendredi à 19h, la chanteuse Olysses le 2 avril à 18h. Au total, 13 artistes sur 4 jours, mais pour les voir, pas besoin de sortir de chez soi, tout se passe en ligne. Le violoniste Renaud Capuçon, lui, n'attend pas le Sofa Festival. Il donne rendez-vous à ses fans sur son compte Instagram chaque jour. Sauf qu'aujourd'hui, sa prestation durera une 20aine de minutes et qu'à la fin, il répondra aux questions des spectateurs.
Moi, je suis très, très excité par l'idée de jouer depuis mon salon pour des gens qui seraient en train de m'entendre au bout du monde ou je ne sais où. Moi, je l'ai fait au départ pour garder du lien avec un public, avoir l'impression aussi de donner un concert, parce que j'en donne 150 concerts par an. Donc, c'était une façon de partager avec eux. Enfin, les gens me remercient de faire ça. C'est très, très chaleureux.
Pour regarder les concerts, il faut se connecter sur le site du Sofa Festival. Et sur la page d'accueil est inscrit en gros « Faites un don ». Le label Warner qui organise l'événement s'est associé à la Fondation des hôpitaux de Paris et de France pour lutter en musique contre le Covid-19. I'm 50.
Et voilà. Depuis votre sofa,
Raphaël. Un petit concert à la maison. Ah oui, ça se fait du bien.
Ça fait du bien.
Ça fait toujours du bien. Et on va en découvrir plein des concerts comme ça. C'est ça la bonne nouvelle.